Vous êtes sur RTL.
Et le journal, c'est avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
À la une, Éric Zemmour qui dénonce une justice politique.
Il a été condamné pour provocation à la haine raciale hier. Il va faire appel. Les plaignants regrettent la légèreté de la sanction, sans peine d'inéligibilité. Il y a de l'eau dans le gaz entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a l'impression que le président lui met des bâtons dans les roues. Dans ce journal également, Jean-Michel Blanquer était à Ibiza en vacances au moment d'annoncer les mesures Covid de la rentrée de janvier. Il est à nouveau ce matin très critiqué. Et puis un miracle à Bruxelles, le conducteur d'un métro a réussi à s'arrêter en urgence à un mètre à peine d'une femme qui avait été projetée sur les voies.
Juste après le journal, on retrouvera Cyprien Sini. Bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Ah bah tiens, on reviendra avec vous notamment sur cette condamnation hier d'Éric Zemmour et sur cette justice soi-disant politique.
Oui, un argument massu très à la mode ces dernières années.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Éric Zemmour, donc candidat à la présidentielle, a donc été condamné hier en pleine campagne pour provocation à la haine raciale après les propos qu'il a tenus sur les mineurs isolés réfugiés en France, qualifiés, on le rappelle, de voleurs, de violeurs et d'assassins sur CNews. Il a été condamné à 10 000 euros d'amende. Samuel Thomas fait partie de la maison des potes partie civile dans cette affaire.
Commettre des incitations à la haine raciale, si c'est sanctionné par les tribunaux, c'est aussi parce que il y a des gens qui sont simples d'esprit et qui sont prêts à commettre ces actes ignobles, presque comme si Éric Zemmour était leur commanditaire. Vous avez vu tous les petits groupes d'extrême droite qui ont été jusqu'à passer à l'acte dans les meetings d'Éric Zemmour. Il y a un danger réel. Donc la gravité des incitations à la haine raciale, il faut la vivre comme ça.
Éric Zemmour, lui donc, va faire appel de cette condamnation. Il a dénoncé donc cette justice qu'il a qualifiée de politique. Maître Olivier Prado est son avocat.
Je rappelle que les migrants ne sont ni une race ni une ethnie et que donc nous poursuivre pour provocation à la haine raciale n'avait pas de sens. Je rappelle que nous avons eu de nombreuses décisions et nous avons eu en définitive une seule condamnation définitive, que la plupart du temps nous avons obtenu les relax en appel et en cassation. Un jugement vient d'être rendu, mais la justice n'est pas encore passée.
Dossier réalisé par Cindy Hubert. Les fouilles vont reprendre ce matin dans le Tarn pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jubilard. D'importants moyens sont déployés avec le concours notamment de l'armée. Les recherches se concentrent autour du domicile des Jubilard, dans le secteur notamment de cette ferme, où le principal accusé aurait laissé entendre qu'il avait enterré sa femme, selon les dires d'un ancien voisin de cellule, dont la crédibilité est remise en cause par les avocats de Cédric Jubilard. La campagne présidentielle maintenant, et les torchons qui brûlent entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre répète qu'il est loyal, ça ne l'empêche pas d'être très fâché. Il a créé, on le sait, son parti Horizon pour s'inscrire en théorie dans la majorité présidentielle. Mais il a décidé de suspendre sa participation au projet commun d'union de plusieurs partis en vue de soutenir le président sortant, Marie Mollet.
Oui, Édouard Philippe avait prévu de se marier. Une alliance entre son parti Horizon et la petite formation de centre-droit Agir, ce qui lui aurait offert d'office des élus et de l'argent. La messe était presque dite, mais un homme a tout fait capoter et l'outrecuidant s'appelle Emmanuel Macron. Le président de la République a mis son veto, pas exactement emballé à l'idée de voir son ex-premier ministre prendre trop de poids et de liberté. Édouard Philippe, vexé, s'est donc vengé avec des propos assassins dans le quotidien L'Opinion hier. « Je ne veux pas qu'on m'emmerde, puisque le mot est à la mode. » Attaque personnelle au chef de l'État, amateur du verbe. Alors le vaudeville vous paraît sans intérêt, eh bien vous avez tort, parce qu'il en dit long sur la relation dégradée entre les deux hommes, alors qu'Édouard Philippe devait être une pièce centrale de la campagne d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe, lui, voulait lever une armée de députés pour préparer sa course à l'Élysée en 2027. Il devra trouver une autre idée.
Merci Marie Mollet, service politique d'RTL.
L'actualité sanitaire et la perspective du pass vaccinal a une certaine efficacité.
Oui, deux fois plus de premières injections sur les deux dernières semaines par rapport aux précédentes. 660 000 personnes en tout ont sauté le pas. Parmi elles, Émilie, trentenaire, juriste à Marseille. Elle y est allée à reculons, mais elle y est allée.
Je me fais vacciner pour la première fois parce que j'ai pas le choix. Je suis une petite fille de 5 ans et si je veux l'emmener voir ses grands-parents qui habitent dans le nord de la France, je dois prendre le train ou l'avion. Vu qu'on me laisse plus le choix de me faire tester et d'être négative pour prendre le train ou l'avion. Et que je peux prendre le train ou l'avion positive sans le savoir, mais vacciner, bah, c'est ce que je vais faire. C'est pas du tout cohérent, mais c'est comme ça. Je me sentais pas irresponsable, mais apparemment on me dit que je suis irresponsable, donc Ben, on va se faire vacciner, quoi. Même si je trouve qu'il n'y a aucune logique sanitaire à tout ça. Mais voilà, c'est pas le choix.
Voilà, Émilie, primo vaccinée à Marseille, au micro d'Hugo Hamelin. Dans ce contexte, la décrue Omicron semble maintenant donc amorcée. Le nombre de patients, par exemple, dans les services de réanimation diminue. Par exemple, à Marseille, sur les 16 lits en réanimation, 6 sont occupés par des patients Covid contre 12 la semaine dernière. Reportage à suivre tout à l'heure dans le journal de 7h. Nouveau record pour les prix du carburant en France. Plus d'1,60€ pour le litre de diesel, 1,68€ pour le sans-plomb, alors que le prix du baril de Brent s'envole également. Il atteint aujourd'hui lui aussi un record depuis 7 ans.
Dans un instant, la rentrée désorganisée à Nantes, ce sont les cantines scolaires qui sont impactées. Dans ce contexte, l'affaire des vacances à la plage de Jean-Michel Blanquer passe mal. À tout de suite.
RTL Matin.
Et à 6h38, c'est la suite du journal d'Olivier Bois. Vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui des vacances de Jean-Michel Blanquer.
Oui, il était à Ibiza dimanche 2 janvier, veille de la rentrée scolaire. Mediapart nous apprend que c'est depuis ses vacances qu'il a donné cette interview aux Parisiens pour annoncer le nouveau protocole cas contact à l'école, tellement critiqué depuis. Au ministère, on affirme que ça n'a pas empêché Jean-Michel Blanquer de travailler. Mais l'affaire passe mal pour un ministre déjà fragilisé et critiqué par l'opposition.
Fragilisé alors que l'intersyndicale appelle à nouveau à la grève dans les écoles.
Oui, appel à la mobilisation pour ce jeudi, une semaine après un mouvement qui avait déjà été très suivi. En ligne de mire, toujours cette rentrée chaotique. Écoutez cet exemple à Nantes, où les enfants du primaire ne peuvent pas aller à la cantine tous les jours, comme d'habitude, Mathieu Lopineau.
Oui, Franck et sa femme travaillent et sans cantine, eh bien, il faut se réorganiser.
C'est un peu galère, hein. Du coup, on essaie de s'alterner avec la maman, donc il faut s'organiser avec le patron et c'est délicat.
Mais ils font comment, les parents? Moi, là, je fais presque tous les jours une araignée de route.
Jusqu'à 60% des agents et des animateurs périscolaires sont absents, positifs ou bien cas contact. Alors pendant les 3 prochaines semaines, un accueil des élèves par roulement est mis en place dans une cinquantaine d'écoles de la ville. Concrètement, ce sont les CE1 qui ne pourront pas être accueillis le lundi à la cantine, les CE2 le mardi, les CM1 le jeudi et les CM2 qui ne pourront pas déjeuner à la cantine le vendredi. Hélène n'a pas de solution pour ses enfants en CE2 et CM2.
Je ne sais pas encore comment je vais faire. Il y a des jours où il faut que je la laisse à la cantine.
Il y a 10 jours, la mairie avait déjà demandé aux parents d'éviter de mettre leurs enfants à la cantine. Pour la mairie, c'est un mal pour un bien, puisque les cantines restent tout de même ouvertes, ce qui ne réconforte pas du tout ce papa.
Je suis très déçu, une fois de plus, parce qu'on prévient au dernier moment, parce qu'il y a d'autres écoles où ça marche.
La mairie, qui n'a pas voulu répondre à nos questions, a opté pour ce roulement, estimant que cela permet aux familles d'anticiper leur organisation et appelle à la solidarité, à la compréhension devant cette situation exceptionnelle.
Un reportage de Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL.
Direction Bruxelles à présent, un conducteur de métro est devenu le héros de la ville.
Oui, sang froid et réflexe incroyable, il a réussi, la scène a été filmée, elle est saisissante, à arrêter son métro à un mètre à peine d'une femme blessée qui avait été projetée sur les rails, Caroline N.
Il est presque 20h vendredi, dans une station de métro plutôt fréquentée du centre-ville. Une femme attend la rame en bord de quai. D'un coup, un homme se jette sur elle et la pousse violemment sur les rails, alors qu'au même instant, le métro arrive. La réaction du conducteur est impressionnante. Il a en quelques secondes à peine réussi à actionner le freinage d'urgence pour piler juste devant la victime encore au sol. Elle ne sera finalement que légèrement blessée, mais elle est très choquée, tout comme le conducteur, surnommé dans toute la presse belge le héros. L'auteur des faits est un Français de 23 ans, il n'a aucun lien avec sa victime. Un expert psychiatre doit encore évaluer son état. Il a été inculpé de tentative de meurtre.
Merci Caroline N. à Bruxelles pour RTL. En bref, les îles Tonga dans le Pacifique sont coupées du monde. L'éruption du volcan sous-marin qui a provoqué un tsunami a aussi endommagé un câble de communication enfoui dans l'océan. L'archipel n'a plus ni téléphone ni internet et les nuages de cendres empêchent les avions d'atterrir. Les réparations sur le câble pourraient d'ailleurs prendre plusieurs semaines. Le sport, l'équipe de France de handball s'est qualifiée pour le tour principal de l'Euro après sa victoire contre la Serbie hier soir 29-25. Et puis à l'Open d'Australie, Richard Gasquet passe au second tour après sa victoire face à son compatriote Hugo Humbert. Même chose pour Corentin Moutet qui a battu Lucas Pouille. C'est terminé en revanche chez les femmes pour Caroline Garcia.
Merci beaucoup Olivier Bois, on vous retrouve à 8h.